Chapitre 4. Les péchés capitaux. Cela avait commencé dans la bonne humeur, autour de la table, à l'heure du petit déjeuner, pendant la période des grandes vacances. Je m'étais jointe à quelques hôtes payants en résidence dans une maison des Landes. L'été brûlait particulièrement. Les heures matinales étaient donc bonnes à vivre et les petits déjeuners toujours très animés. Les autres étaient tous jeunes et de charmante compagnie. Les rapports s'établissaient sympathiques et confiants. On pouvait plaisanter sans crainte d'être taxé de légèreté ou de sottise. L'assemblée se composait ainsi. La maîtresse de maison, dame sans grand charme, son mari, professeur au Collège de France, leur fille Charlotte, mère de plusieurs jolis enfants. Tran, le mari de celle-ci, médecin d'origine asiatique, un écrivain poète, quelque peu lunatique, sa très jeune femme, Aliette, petite créature excessivement secrète, Jean, un avocat célibataire, ami de Tran, et moi. Je ne sais comment, un matin, le bavardage glissa vers les 7 péchés capitaux. « Vous autres occidentaux, dit Tran le médecin, vous êtes toujours hantés par cette notion de péché. Elle vous poursuit même aux heures les plus calmes. Détendez-vous, s'il vous plaît. » Et parlons plutôt de la promenade que nous pourrons entreprendre aujourd'hui. Personnellement, ce ne sont pas les péchés qui me hantent, répondit Jean l'avocat. C'en est plus spécialement la liste. Avez-vous remarqué que lorsqu'on veut s'en souvenir, il en manque toujours un? Impossible de les débusquer. Et ce n'est jamais le même. Pour moi, le péché majeur, qui pourtant n'est pas au nombre des 7, c'est notre ignorance. Même quand nous sommes instruits, les choses les plus élémentaires nous échappent. C'est ce qu'illustre fort bien à Kyoto le jardin aux 15 pierres, dont une est toujours invisible, dis-je. Il nous met devant l'évidence qu'un des aspects de la vérité, quoi que nous fassions, de quelque point de vue que nous nous placions, nous demeure inconnu. Quelle leçon pour la modestie! Bien entendu, enchaîna la maîtresse de maison d'une voix pleine d'onction. Mais en ce qui concerne les péchés capitaux, il vaut mieux, pour la modestie, les voir tous. Si l'un d'eux est oublié, c'est à lui que nous serons exposés. « Eh oui !» ajouta son mari en la lorgnant avec ambiguïté. « Comment porter remède à ce qu'on ignore ?» Ce professeur était un exquis personnage. Penché sur des recherches qui me demeuraient étrangères, il semblait n'appartenir qu'accidentellement à la terre. De même que c'est accidentellement qu'il avait dû se marier. Sa femme était très économe, et les repas du soir se composaient souvent de potées plus riches de légumes que de viande. « prenez du chou et des pommes de terre !» était un leitmotiv que tous nous commencions à connaître. L'intervention discrètement perfide du professeur fit frémir autour de la table un très léger fou rire, que la bonne éducation tempéra. Le nez plongé dans son bol de café, la dame ne vit rien. Moi qui ai une rigoureuse formation chrétienne, n'est-ce pas, mère ? Dit la fille de la maison en manière de diversion. Je dois tous les savoir de façon exemplaire. Prenez en note, que je ne sois pas obligée de recommencer. Et elle énuméra. L'envie, l'avarice, la paresse, la gourmandise, la luxure. Puis elle s'arrêta court, pleine de confusion. J'éclatai de rire et je lui dis. La luxure vous trouble? Vous n'êtes pas une bonne catholique? J'aimerais bien qu'on n'essaie pas de bouleverser mon ménage, dit Tran, dont les yeux bridés manifestaient la joie. Et il ajouta en se tournant vers sa femme. Ne te tourmente pas, ma chérie. Je ne t'ai pas épousée pour ta religion. Ah, dit le professeur avec reproche, tu n'as passé sous silence que la colère et l'orgueil. Tu es un vrai cancre qui ne fait pas honneur à son père. Au contraire, la meilleure preuve que j'ai bien assimilé tout enseignement est que colère et orgueil ont totalement disparu de ma vie, n'est-ce pas, Tran ? On en resta là, chacun s'absorbant dans la dégustation du pain grillé et des confitures maison, après que Jean l'avocat eut fait remarquer d'un air quelque peu salace que... N'est-ce pas, Tran ? Charlotte n'avait cependant pas oublié la luxure. Le lendemain matin, le poète lunatique, dont nous ignorions le prénom, Aliette, sa femme, ne l'appelant que mon ange, lança. « Il m'en manque encore un. Ça m'a empoisonné une heure d'insomnie. »« Un quoi ? » ?»« Un péché capitaux. »« Dalle. »« Quoi, dalle ? Capital ! Un péché capital ! Cria l'assemblée d'une voix unanime. Et tous, nous pouffâmes comme des collégiens. « Il y a un remède, dit la fille du logis. Si personne ne s'y oppose, c'est de faire une petite fête où 7 d'entre nous les incarneront. Ainsi, impossible de ne pas les retenir. » « Vous ne compterez pas sur moi, Charlotte, lui répondis-je. Je suis en vacances et, en tant que comédienne, je connais trop le genre de tours que peuvent jouer ces personnages-là, alors même qu'on pense les maîtriser. Non, très peu pour moi. « Mettez-nous au moins en scène, dit le poète. » Je me sentis devenir grincheuse et répondis sèchement. « J'ai horreur de l'amateurisme. Il faudra peut-être aussi que j'écrive vos sketchs. »« Nous en sommes tout à fait capables, dit l'avocat. » « Je pense qu'une collaboration entre mon ange et moi pourrait être aussi efficace que brillante. »« Et si vous vouliez bien condescendre ensuite à jeter un coup d'œil sur notre production, nous attendrions le sublime. » Je n'entrai pas dans la plaisanterie. « Les vacances sont les vacances, faites ce que vous voudrez. Et si vous dansez, je vous promets de danser avec vous, si cela vous fait plaisir. » »« Je choisirai même les disques, mais là s'arrêtera ma participation. » »« Vous avez souffert des moustiques cette nuit ?» me demanda Tran. « J'ai une excellente pommade, et je ne vous ferai pas payer la consultation. »« Non, merci pour vos offres de service, docteur. Simplement, je trouve le jeu dangereux. »« Ce que vous pouvez être béni, oui, oui. » »« Vous ne croyez pas si bien dire, Tran. » Et je me mis à m'enflammer. Le théâtre est un métier religieux, et malheur à qui, hors de son domaine, s'amuse à pratiquer des momeries. En tant qu'amateur, vous ne risquez pas grand-chose. Mais si pourtant, les uns et les autres, vous êtes un peu doués, vous pouvez vous attendre à des surprises. » D'un ton apaisant, le professeur me fit taire. « Ne jouez pas les rabat-joie, ce n'est pas votre style. Et ne soyez pas inquiète, rien de mauvais ne se produira ici. »« C'est vrai, lança Tran, la science nous protège en votre personne, beau papa. Mais maintenant, distribuons les rôles. Personnellement, je tiens à la luxure. D'abord, parce que je veux que ma femme ne court aucun danger. Ensuite, parce qu'elle lui a valu des réflexions gênantes. Et puis, dit sa belle-mère, parce que vous autres médecins, vous êtes tous des obsédés sexuels, c'est bien connu. Avouez que je vous ai fait de beaux petits-enfants. Oui, d'accord, mais je vous interdis pour la paix de ma fille d'endosser la luxure. Je la prends, moi, dit Jean l'avocat. Je suis célibataire, et tu peux être tranquille, Tran. Ta femme ne craint rien avec moi. Non que l'amitié me retienne, mais je serai trop facilement découvert. Comment pourrais-je lui faire des bébés eurasiens ? Madame Mère n'aima pas du tout le tour que prenait la conversation. Et s'adressant à Aliette, elle dit « Vous vous taisez toujours, mon petit. Dommage qu'il soit question de faire vivre des péchés. S'il s'agissait de vertus, on vous donnerait la discrétion. » « J'ai une idée pour elle, dit le mari poète. C'est la gourmandise. » « Moi j'en ai une pour toi, mon ange, répondit-elle avec douceur. C'est la paresse. » Cela jeta un froid. Je ne manquais pas de noter de par moi. Voilà, cela commence. Et je fis remarquer tout haut que personne ne devait obliger personne, que c'était à chacun de décider pour soi. « Je suis très contente de la gourmandise, dit Aliette. « Pourquoi ne le serais-je pas de la paresse ?» dit à son tour le poète. « La fontaine s'en serait immédiatement emparée, j'en suis sûre. Et j'aime la fontaine. » Restait à distribuer l'envie, la colère, l'orgueil et l'avarice. Nanti de la luxure, Jean fit remarquer que cela allait être délicat et qu'il fallait tirer au sort. 4 voix se firent alors entendre pour protester contre l'éventualité de recevoir l'avarice en partage. 3 des protagonistes savaient qu'elle était déjà de longue date représentée dans la maison et ils étaient bien placés pour le savoir puisqu'il s'agissait du professeur, de sa fille et de son beau-fils. « Je suis assez de l'avis de notre comédienne, dit la vieille dame. Je me retire aussi du jeu et puisque personne ne veut de l'avarice, laissons-la de côté. 3 péchés restent à répartir entre vous 3, ce sera très simple. » On ne pouvait espérer meilleure solution. Tout, jusque-là, allait pour le mieux. On tira au sort. Charlotte reçut l'orgueil, Tran la colère, et le professeur l'envie. La fête fut fixée au samedi suivant. Chacun disposait d'une semaine pour préparer son rôle. On commença à fouiller caves et greniers dans l'espoir de trouver des accessoires représentatifs, car il fallait maintenant imaginer la réalisation de ces allégories. Seul, le poète s'abstint d'agitation. il se contenta de dire à sa femme « Aliette, tu me fabriqueras une perruque Louis XIV. »«
Une perruque Louis XIV ? C'est facile, mon ange. » »«
Oui, oui, avec du papier d'emballage que tu friseras après en avoir fait des bandes d'un centimètre de large. Tu verras, ce sera très bien. »
Ils m'appellent tous maintenant La Fontaine. Et si ce n'est pas assez clair, je m'allongerai dans un coin du salon et bâillerai à me décrocher la mâchoire. Je ne manquerai pas de le faire avec beaucoup de sincérité. Leur soirée sera certainement aussi ennuyeuse que les dents les puérilles.
Bien, dit Aliette. Mais tu me donneras de l'argent, mon ange, pour que j'achète des chocolats et des bonbons. Et mon déguisement consistera à rembourrer une de mes robes les plus larges. Je serai ainsi une bonne incarnation de la gourmandise.
On ne trouva pas grand-chose pour habiller l'envie, l'orgueil et la colère. Quant à Jean, il eut, sur la luxure, des idées si obscènes qu'elles inquiétèrent tout le monde. On finit par décider qu'on ne donnerait que quelques signes extérieurs et bienséants des péchés. Puisque la professionnelle ne prenait pas en main la direction de la fête, on accepterait de sombrer dans l'approximation anodine et distinguée. La Fontaine libéra sa femme de la fabrication de la perruque. Elle-même renonça par coquetterie à gonfler une de ses robes, mais non pas à manger ses bonbons. De l'idée initiale ne restait plus maintenant que la perspective d'un bal. Pour danser, on découvrit un gramophone vétuste que je dépoussiérai et on sortit de la bibliothèque une série de vieux succès attendrissants qui nous ravirent tous.
Vous nous ferez un bon dîner, dit le professeur à sa femme. Quelque chose d'amusant et qui sorte de l'ordinaire.
« Mon cher ami, répondit-elle, je m'organiserai de mon mieux. Tout cela est une question de budget. J'aurais pu commander à la cuisinière un sorbet aux pêches, par exemple. J'en avais eu l'idée, mais celles qui mûrissaient si bien dans le verger ont disparu, cueillies par une main coupable. »
Aliette, après avoir rougi et baissé le nez dans son assiette, prit subitement l'héroïque décision d'avouer.
« C'est moi, madame, qui suis allée dans le verger. Je ne savais pas qu'il était interdit de cueillir les fruits, et je les aime lorsqu'ils sortent de l'arbre. Je ne comprends pas pourquoi, depuis que je suis ici, j'ai tout le temps faim. »
Elle, si réservée, était devenue légèrement arrogante.
Monsieur le grand air, fit la maîtresse de maison avec reproche.
C'est aussi, ajouta Trane, parce que vous grignotez beaucoup de sucreries. Pardonnez au médecin de vous rappeler que le sucre rappelle le sucre.
Charlotte remarqua en riant. Vous êtes en pleine crise de gourmandise, Aliette.
Oui, dit La Fontaine, elle prend des kilos.
Ça, c'est parce que vous ne lui donnez pas assez d'exercice.
C'était l'avocat qui avait proféré cette perfidie manifestement grivoise. Un ange passa, et le café matinal sembla à chacun quelque peu amer. Ce Jean devenait impossible. La veille au soir, il était venu gratter avec insistance à la porte de ma chambre, me suppliant mezzo voce de lui ouvrir. Il se plaignait de ne pas dormir, et savait que je disposais de pilules pour le sommeil. « Vous demanderez à Trane demain, » avais-je répondu un pas vide. « Il vous fera une ordonnance. » J'ai droit ce jour-là, à l'heure de la sieste, à une scène de séduction. J'étais restée à l'ombre d'un arbre avec un livre, à l'écart des autres, dans une grande prairie. Jean s'était assis au pied de mon transat, et, les genoux ramenés sous le menton, il me regardait avec une expression qu'il souhaitait aussi admirative qu'intense. Après un long moment de ce semblant d'extase, las de me voir n'y porter aucune attention, il me déclara enfin que j'étais une femme merveilleuse, que j'avais beaucoup de caractère, exactement ce qu'il aimait, et que ma froideur à son égard l'angoissait au plus haut point, qu'il avait besoin de ma tendresse, qu'il était en train de sombrer dans ce qu'il avait peur d'être obligé d'appeler de la passion.
« Rien de tout cela ne m'amuse, lui dis-je.
La passion, je la connais. J'y baigne toute la journée. C'est le moteur principal de ma profession. Je vous l'ai déjà dit, je suis en vacances. »
Alors c'est non ?
C'est non. Mais il y a des filles charmantes au pays qui seraient très fières de vous avoir rencontrées. Il partit sur le champ en quête d'une bonne fortune, et, à l'heure du dîner, il fut très insolent à mon égard, m'assurant qu'il avait suivi mon conseil et que ses démarches avaient été particulièrement efficaces, qu'il se sentait beaucoup mieux. Il commença à passer ses nuits et ses après-midi dehors. La Fontaine, lui, se laissait vivre et ne faisait strictement plus rien que sommeiller. Aliette mangeait et engraissait. Et, à table, l'ordinaire ne s'était pas amélioré, la maîtresse de maison augmentant ses efforts d'économie en prévision du festin qu'elle devait nous offrir en fin de semaine. Je considérais avec beaucoup d'intérêt l'attitude de ces quatre-là.
Le matin du samedi, jour prévu de la fête, Charlotte, après avoir choisi une robe à danser pour le soir, prit une jolie veste de traîne dans la penderie, une veste blanche, très grand chic colonial. Elle rêvait à lui en caressant l'alpaga. Il était beau au traîne. Il avait une douce peau de couleur ambrée, son nez était droit et ciselé comme un ivoire, ses dents brillaient d'une blancheur éclatante. Il était intelligent, traîne, et drôle, et il lui avait fait les plus beaux, les plus gentils petits Eurasiens du monde. Elle vérifiait si les poches étaient bien vides avant de passer la brosse, et ses ongles heurtèrent un bristol qu'elle retira. Ses yeux considérèrent la carte sans intention aucune et virent une signature. Mélissa.
Tiens, pensa-t-elle, Mélissa, je ne connais pas.
La curiosité soudain en éveille, elle lut. Cher Trane, je me suis terriblement ennuyée en Grèce. Je sais que tout marche très bien pour toi. Je suis heureuse d'avoir retrouvé ta trace. Téléphone-moi si tu veux. Suivez un numéro. Je m'installe moi aussi à Paris. Le pays natal ne m'a rien valu. À bientôt, Mélissa. Charlotte tomba assise sur la chaise la plus proche. Une douleur épouvantable s'était emparée d'elle, de la tête aux pieds. Trane, appela-t-elle d'une voix contenue. Il était dans le cabinet de toilette, attenant à la chambre, et répondit avec bonne humeur. J'arrive.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Elle brandissait la carte et son visage était tragique. Une petite lettre.
Une lettre de qui?
D'une copine grecque, je l'ai connue à la fac.
Comment se fait-il que moi je ne la connaisse pas?
Tu ne peux pas connaître tous les gens que j'ai connus. Et il commençait à se sentir nerveux.
Tu veux dire toutes les filles et toutes les femmes que j'ai connues?
Il y eut entre eux un échange de regards extrêmement tendu.
Tu me fais une scène?
Je trouve la présence de ce Bristol inadmissible.
Je ne me suis pas mariée avec toi, puceau.
Elle se leva d'un bond et lui cingla les joues d'une paire de claques. Trane devint vert olive. Ses yeux bridés étaient deux couteaux qui lançaient d'effrayants éclats. Il serra les poings en retenant sa violence et se mit à hurler dans sa langue maternelle. Un langage chaotique, heurté, incompréhensible, mais qui laissait présager le pire. Charlotte se jeta sur le lit et commença à se tordre comme une damnée.
« Comment peux-tu me faire une chose pareille? À moi, moi! Je suis belle, je suis brillante! Non?
Tu me fais une scène de jalousie ou tu dresses le bilan de ta grandeur? » Il avait retrouvé l'usage de la parole en français.
« Arrête cette comédie! Arrête ça ou je fous le camp !»
Elle se mit à crier à son tour.
« J'aimerais que tu aies conscience de ce que nous sommes et que tu mesures aussi ce à quoi j'ai renoncé pour toi, toi et ta situation précaire. Je t'ai apporté ma beauté, mes relations et ma fortune. J'ai bravé pour toi l'opinion de nos amis. »
« C'est tout ?» dit Trane, qui devenait glacée et blême.
« Quel orgueil ! Je t'ai apporté ma famille, une famille remarquable. »
« Parlons-en, » dit-il entre ses dents.
« Du chou ! Prenez du chou et des pommes de terre !»«
N'attaque pas ma mère, » hurla-t-elle.
« Tu ne lui arrives pas à la cheville !»
Trane saisit un flacon de parfum sur la coiffeuse et à la volée, l'envoya sur le mur où il se répandit, laissant sur le papier à fleurs une tache meurtrière. Puis, attrapant sa veste d'alpaga, le bristol, il sortit en claquant la porte. On entendit peu après le moteur de sa voiture qui démarrait. Tout était consommé. L'orgueil et le colère étaient entrés en scène. Charlotte, en pleurs, donna l'alarme. Le bruit des cris avait d'ailleurs pétrifié la maison. Une consternation générale s'étendit sur tous. Charlotte, terriblement mortifiée, se réfugia de nouveau dans sa chambre où sa mère la suivit pour essayer de la consoler.
« Me faire ça, à moi !» répétait la jeune femme. Et elle criait « Je suis trop blessée, jamais je ne pardonnerai !»
Madame Mère mesurait du regard l'étendue des dégâts dont souffrait le papier mural, symbole pour elle de souvenirs familiaux, et dit « Ma fille, qu'il ne compte pas sur moi pour réparer ce que nous vous arrache. Il paiera, crois-moi, il paiera. » Charlotte, peu à peu pourtant, se calma. Elle sombra dans les larmes silencieuses pendant que Madame Mère, en lui tapotant les mains, ne cessait de s'inquiéter des frais engagés dans son menu de choix qui allait devenir inutile, la soirée semblant fort compromise. L'après-midi fut sinistre. Quand le soleil commença à être un peu moins chaud,
le maître de maison vint me rejoindre sous l'arbre qui avait abrité ma sieste. « Cela vous serait-il agréable, me demanda-t-il, de faire une promenade avec moi ? J'ai attelé. Le cheval attend et, après cette ambiance de drame, un petit trot pourrait être apaisant. » Nous partîmes tous les deux. La journée était encore chaude. La forêt sentait la résine, et en dépit de la couleur sombre des pins, la lumière se répandait généreusement. Le cheval trottait de façon régulière, je respirais à plein poumon. « Les péchés capitaux ont répondu présent, » dis-je après un instant de silence. « Il ne reste plus que vous qui ayez échappé aux autres. » Il sourit avec une nuance de tristesse et répondit. « Non, simplement l'envie est plus secrète que la colère, l'orgueil, la paresse, la luxure, la gourmandise et l'avarice, » ajouta-t-il à regret. « Mais si je vous ai proposé de venir avec moi, c'était pour vous en faire part. Je vous envie tous, à mourir. » Je suis ravagée par l'envie. J'envie la jeunesse d'Aliette, j'envie l'insouciance béate de La Fontaine, j'envie l'amour de Trane et de Charlotte, j'envie votre liberté et celle de Jean. Vous avez l'âge de la philosophie, lui dis-je. Vous ne pouvez ignorer que liberté, jeunesse, insouciance, amour, tout cela est fort relatif. Ce qui n'est pas relatif, rétorqua-t-il avec tristesse, c'est que vous allez bientôt partir et qu'il ne me restera qu'un assez morne tête-à-tête. Il n'y avait pas grand-chose à répondre. La forêt est belle, la vie pleine de ressources, et santé comme les pins sentent bon, aurait été une faible consolation pour ces anciennes meurtrissures. Nous revînmes donc à la maison en silence. Quand le petit cheval reprit sa place à l'écurie, la voiture de Trane était là. « Tiens, dit le professeur, voilà qui est bien, c'est un bon garçon. » En effet, calmé, Trane avait fait demi-tour et rejoint Charlotte. Mutuellement, en secret, dans leur chambre, ils se consolèrent. Quand ce fut fait, « Je commanderai un autre papier, » dit Trane, allongé sur le dos et embrassant les murs du regard. « Je n'aimais pas beaucoup celui-là. Il n'était pas de première jeunesse. Et puis, je t'ai apporté de Dax un nouveau parfum. » Charlotte alla trouver sa mère qui, à l'office, s'inquiétait encore devant l'ébauche de son repas de gala. « On ne parle plus de rien, maman. Tu as eu raison de prévoir un bon dîner. Trane fera réparer les dégâts. Je n'ai même pas eu besoin de lui demander. « Au fond, c'est un homme bien élevé et charmant, » répondit sa mère. « Un peu dépensier, mais charmant. » La soirée eut lieu. Après le dîner, qui fut aussi gai que réussi, comme prévu, on dansa. Aliette me dit, « Vous savez que j'ai failli ne pas entrer dans ma robe. Demain, je me mets au régime. » Quant à La Fontaine, l'œil noyé dans les vapeurs du champagne que Trane avait généreusement offert, il reconnut que la poésie ne nourrissait pas ce homme, qu'à la longue, ça décourageait de travailler, mais qu'il allait changer son fusil d'épaule et écrire un roman. Il avait trouvé un admirable sujet et un très bon titre, « Les péchés capitaux ». L'avocat me fit poliment un doigt de cour, à laquelle il ajouta en conclusion. « Les filles du pays sont idiotes. À partir d'aujourd'hui, comme vous, je me mets en vacances. » Charlotte, au creux du cou de Trane, bercée par un sceau antique, susurrait. « J'étais possédée. « Tu sais bien, n'est-ce pas, que tu vaux pour moi beaucoup plus que toute ma famille réunie. Il ne me reste pour être complètement heureuse que d'avoir moi aussi les yeux bridés. »« Ne t'inquiète pas, » la rassura-t-il. « Pour que tu sois un peu asiatique, je te donnerai des leçons de philosophie bouddhique. » Quant au maître de maison, au milieu d'un tango qui les soufflait légèrement, il me dit « Vous avez eu raison de vous tenir en marge. Si vous nous faites le plaisir de revenir l'année prochaine, nous choisirons le jeu des vertus. Et alors, c'est à vous que reviendra de droit la sagesse. » Posément, je lui répondis. « Monsieur le professeur, vous êtes bien peu sage. Le jeu des vertus, il vous ménagera d'autres tourments, soyez-en sûr. » Le souvenir de cette très mauvaise et trop studieuse vacance exhale maintenant un léger parfum d'apologue. Les péchés mettent les protagonistes en présence de leurs erreurs et ont l'avantage de leur en faire prendre conscience. Quels seraient les ravages causés par la vertu? La comédienne que je suis sait trop combien ce qu'on incarne exige, et il est vrai que, si on me l'avait proposé, j'aurais refusé d'entrer dans le jeu. En ce qui concerne le jeu, je n'ai aimé que celui du théâtre, qui m'a causé de grandes douleurs. J'ai passé mon temps à poursuivre pendant des jours ou des mois des personnages qui me fuyaient. Certains soirs malheureux, ceux que je croyais finalement tenir, filaient entre mes doigts comme des anguilles. D'autres, au contraire, investissaient si complètement la place qu'ils me transformaient au point que les proches ne me reconnaissaient plus. Amusant et terrible métier. Si savant qu'on soit, c'est toujours le personnage qui décide, qui gagne la partie ou vous la fait perdre, qui profite de vos faiblesses pour se grandir ou pour vous couler. Reconnaître cela, mettre bas les armes, est très inconfortable. Mais quand, dans les meilleurs cas, les conditions de travail semblent pouvoir faire espérer en fin de parcours le triomphe d'une générale, rien n'est jamais su. Nous marchons sur le sable, jouons avec le feu, le vent, l'illusion. La cure thermale, qui va suivre, me vaudra peut-être le reproche d'avoir adopté une conclusion édifiante et bourgeoise. Mais je reconnais parfaitement le droit à la comédienne, débordée, comblée, épuisée, heureuse, abominablement gâtée et angoissée que j'ai été, furieusement secrète et indépendante aussi, de faire vivre un instant la nostalgie de ce qui aurait pu être une existence vouée au calme. Je dédie donc avec tendresse la cure thermale à toutes les petites Dorothy intelligentes et courageuses qui, ayant vainement essayé de concilier maternité et profession, ont opté pour la plus modeste des voies. Qu'aucun regret ne vienne troubler leur paix, quoi qu'on leur dise.